16h52 dans la circulation. Audrey.
Il y a encore pas mal de problèmes sur la Capitale-Est à la hauteur de Robert Bourassa, direction Ouest. C'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa-Nord, c'est entre Charest et la Capitale qu'il y a des ralentissements. Charest-Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, là, il y a de gros problèmes de ce côté-là aussi. L'entrée du pont Pierre-Laporte, super difficile, direction Sud. Et la 20 Ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Il faut que je vous dise aussi que la reconstruction de la tête des ponts de Québec et Pierre-Laporte là, entre dans une nouvelle phase qui aura des impacts sur la circulation de nuit, donc le pont de Québec.
La reconstruction. La reconstruction de la tête des ponts.
C'est très Ron Burgundy ce que tu viens de nous faire là.
La reconstruction de la tête des ponts de Québec.
Oui, oui, oui.
Et Pierre Laporte.
Un long projet de 123 ans.
C'est ça. Donc le pont de Québec va être complètement fermé dans les deux directions ce soir dès 21h jusqu'à 5h30 demain matin. Et la fermeture va se répéter mercredi, jeudi, 21h30 à 5h30 du matin. Vous allez pouvoir prendre le pont Pierre Laporte.
Thank you. 16h53.
Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
Bon, un autre qui réussit, rien que parce qu'il est beau. Salut Alex, comment
Salut,
ça, va?
Ça va?
Alex Leblon, planificateur financier. On va jaser de chiffres. Hey, juste pour le fun, on s'amuse-tu?
Ouais,
Audrey, non, je commence
Moi,
pas par
ironique.
Audrey. Véro, est-ce que tes impôts sont faits?
Ah, oh, bien, mes retours sont reçus.
Tes retours sont reçus?
J'ai fait mes impôts la journée où on pouvait faire les impôts.
Alex, tes impôts sont-tu faits?
Ouais.
Ouais? T'as-tu reçu tes retours? T'as-tu envoyé tes chèques?
Ouais, il y a une place, j'avais un retour, une place, il fallait que je fasse un chèque, mais tout est fait.
OK, Audrey?
Bientôt.
T'as-tu assisté à la conversation dans le bureau tantôt?
Oui.
OK.
Oui.
J'étais pas capable de récupérer certains papiers.
On est dans un moment clé de l'humanité où on se sépare vraiment en deux. À ceux qui attendent la dernière minute puis ceux qui prennent la dernière minute, on dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux dans le monde des impôts.
Non, mais t'as aussi, pour donner des excuses à du monde, là, t'as aussi souvent des papiers qui s'envoient pas. Puis,
ah, mais nous autres, on est chanceux, tout est numérisé, mais il a fallu qu'Audrey mobilise un membre de la direction pour les trouver.
Ah, ouais.
C'est là qu'il a réalisé que je consultais aucun talon de paye parce que je n'ai jamais rentré.
J'ai fait comme toi. Mais il y a trois semaines.
Ah, bon, tu vois.
Tu l'as fait plus discrètement.
Oui, oui, moi, j'y vais.
Jusqu'au 30 avril qu'on a. Hein.
Yes.
Vous êtes un salarié, là.
C'est
un travailleur sur l'autre game, là, mais 30 avril.
Max. Yes. Fait que je te dis ça même.
Mais non, mais on a un mois, je trouve ça
Oui, t'as du lousse encore bien en masse.
Je vais faire les 28.
Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Il y en a qui, c'est vraiment, là, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont tout le papier, ils envoient tout. Okay. Moi, je suis dans cette catégorie-là, pas parce que je suis prévoyant, parce que je sais que je suis négligent. Puis si je le fais pas de même, je vais me ramasser à manquer de temps.
Moi, c'est parce que c'est très
toi,
facile.
Parce que t'es toi.
Non, c'est très facile. Puis l'autre affaire, c'est que vu que je me suis éduquée sur le plan de mes finances, maintenant, j'ai des retours d'impôts que j'ai pas eu pendant des années. Fait que ça me permet d'aller à New York à Pâques.
Ah bon? Un exemple parmi tant d'autres.
Ça, c'est un classique. La seconde où le gouvernement met un deadline, t'as deux extrêmes. On le voit avec le REER aussi.
Aussi,
nous autres, là, on se. Mettons, moi, le monde, ils peuvent me booker dans mon agenda. Là, le 26, 27, 28 février, je me barre parce que je sais que tout le monde va m'écrire.
C'est le temps-là.
Alors
là,
que tu peux en mettre pendant, dans tes REER pendant toute l'année avant.
T'as 360, ben, cette année, tu as 366 jours au cotisé.
Ben, c'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez cotiser pour vos impôts que vous allez faire en 2025.
Les deadlines font ça.
On parle de la cote de crédit aujourd'hui, une notion qu'on prend pour acquis, alors que là-dedans, comme dans le reste, il y a des subtilités.
C'est-tu quelque chose qui vous a déjà stressé, vous autres, vos cotes de crédit?
Oui. Ben non. Peut-être à un moment donné, je suis allé la vérifier. Tu sais, juste par curiosité, dans un bout où j'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma carte de crédit, j'allais vérifier si j'avais été décoté.
Ça, ou quand tu as besoin, mettons, d'aller faire une demande de prêt pour un véhicule ou encore pour une maison, quoi que ce soit. Puis, tu sais, la première fois que tu oublies de payer une facture, moi, mes factures, ils ne se paient pas automatiquement parce que je veux toujours valider à chaque fois. La première fois que tu oublies, puis là, tu reçois le courriel, est en retard, tu es comme, mon Dieu, je viens de scraper mon crédit pour toute ma vie. Fait que oui, je me pose la question.
T'as-tu beaucoup de monde, mettons, qui t'avoue ne pas l'avoir consulté?
Oui, mais ce qui arrive souvent, c'est que, tu sais, la cote de crédit, c'est quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin jusqu'au moment où tu en as besoin.
Ouais.
Tu sais, tu en as besoin quand tu veux faire un emprunt, quand tu veux louer un appartement, whatever. Fait que c'est rare que tu regardes, OK, j'ai un projet qui arrive dans 6 mois, fait que je vais checker si mon crédit est correct, je vais checker s'il n'y a pas d'erreur dans mon dossier. Souvent, tu arrives, tu check, puis s'il y a une erreur, s'il est basse, ben tu le sais un peu dans la minute. Là. Fait que c'est pas tant... les gens ne le savent pas. Fait que c'est...
Parce honnêtement, moi, j'ai jamais consulté ça. Là. Je suis seule au monde.
Depuis qu'elle est sur l'application de l'institution financière, je regarde. Là, c'est correct. Elle varie de quel bord. Puis je suis dans quel. Parce qu'ils te mettent ça par couleur. Là.
Ouais.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as décidé de reculer dans le temps pour nous montrer que la cote de crédit, ça a déjà été basé sur des drôles de trucs, mettons.
Oui, ben je trouve ça intéressant parce que... Puis je voulais faire une chronique à un moment donné comme l'histoire du crédit parce que ce spot-là est vraiment intéressant parce que autant ces temps-ci, depuis 5-10 ans, on vante les... Tu sais, on est beaucoup anti-crédit, autant le building dans lequel on est présentement, il n'existe pas sans crédit. Mm-hmm. La société dans laquelle on vit, elle n'existe pas sans crédit.
Ouais.
Ben, quand tu regardes l'histoire du crédit, on peut reculer loin, là, mais le crédit tel qu'on le connaît, grosso modo, ça a 500 ans.
Okay.
Mais la cote de crédit a à peu près 150 ans. Fait que là, c'était comme un 350 ans où tu étais comme, OK, comment ça marchait le crédit?
Uh-huh.
Fait que, à base, mettons que tu étais un agriculteur, que toi, tu voulais acheter un terre ou agrandir ta terre, ou c'était souvent ça, là, c'était rare que c'était un gars qui avait une business informatique, là, mm-hmm. Il n'y en avait pas. Fait que c'est souvent des agriculteurs, ils allaient à la banque, puis là, ils disaient hey, « ben, j'ai besoin d'un emprunt ». Fait que là, ce que le banquier disait, c'est « garde, j'ai aucune information sur toi, je sais pas si je te prête de l'argent, si tu vas me le redonner, whatever ». Fait que c'est un peu le principe des références, là.
La fiabilité.
Des références. Mm-hmm. Fait que ça me prend un voisin qui va dire « Ah oh non, le Johnny, c'est un bon gars. » Puis « OK, ça me prend quelqu'un qui est non relié de sang à toi. » Puis ça te prenait un paquet de gens qui allaient essentiellement pas t'endosser, mais te vendre à l'institution financière. « Ah non, lui, il est fiable. Là, lui, il va te rembourser. » Puis à un moment donné, les institutions financières sont bien rendues compte que ça n'a pas de crise de sens. T'sais. Ça a repris 350 ans. Mais ils se sont rendus compte que « Hey, on est tanné de ne pas se faire rembourser. » Fait qu'ils ont mis sur pied ce système-là de dossier de crédit où on était capable un petit peu de traquer le comportement d'une personne puis de déterminer si oui ou non elle allait nous rembourser.
Parle-nous du premier bureau de crédit en tant que tel puis donne-nous les exemples. Je les trouve trop bons. Puis en même temps, bien, ça nous montre que la société a une petite affaire évoluée.
Ouais, la première entreprise là, qui se spécialisait là-dedans puis que vraiment, on pouvait dire que c'est une entreprise, un genre de bureau de crédit, c'était Mercantile Agency. C'était en 1841.
Okay.
Et il y avait les billets de 1841. Dans le sens où, puis ça, c'est dans des documents d'époque, on voit ça là, dans des dossiers, des phrases genre « Il faut faire preuve de prudence dans les transactions importantes avec tous les Juifs. » très 1841.
Wow. Effectivement, c'est assez fixé dans le temps.
Tu sais, dis-toi que je pense que la fin de l'esclavage, c'est 1865 aux États-Unis. Là. Fait que c'était encore un moment où tu pouvais avoir des esclaves. Puis, fait que c'est vraiment teinté des préjugés de l'époque.
Ouais.
Fait que c'était pas parfait. Fait que ça, c'est 1841. Puis pour te donner une idée, là, ce système-là a évolué pas mal. Là. 1899, c'est la fondation d'une compagnie qui s'appelle Retail Credit Company, qui aujourd'hui porte le nom de Equifax.
Donc, il existe encore.
Ouais, fait que le système tel qu'on le connaît, là, puis évidemment, ça a changé entre-temps, là, mais on peut le tracer vraiment plus à 1899 qu'à 1841.
En 2024, un dossier de crédit, j'imagine qu'un voisin ne peut plus me faire du tort s'il va à la banque puis qu'il dit que j'y ai volé 3 chèvres dans son pâturage. Là.
Non.
On est rendu ailleurs.
On est rendu ailleurs. C'est totalement numérisé. Essentiellement, ils ont accès à tout. Fait que mettons que toi, tu as un compte chez Vidéotron, tu as une carte de crédit, 2 cartes de crédit, tu as un compte à un paquet de places.
Tu as eu des comptes qui sont fermés, tu as eu des prêts auparavant, ils ont tout, là.
Exactement. Fait que c'est un dossier numérique. Puis ça, à quoi ça sert, c'est mettons que je m'en vais voir la banque X, puis je demande à la banque X, hey, crash 350 000 $, prête-moi ça, puis je vais m'acheter une maison. Eux autres, ils vont vouloir voir, OK, comment tu t'es comporté par le passé quand les gens t'ont offert du crédit? Tes cartes de crédit, c'est quoi leur taux d'utilisation? Vidéotron, Bell, les télécoms, souvent c'est là que ça blesse. Là. Fait, comment tu as utilisé ça? Fait que c'est numérique, puis ton score, là, ça varie entre 300 et 900.
Pourquoi? Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur 100, mettons?
Ça, c'est le...
Pourquoi? Entre 300 et 900, ils voulaient être sûrs qu'on ne comprenne pas?
C'est la question, c'est pourquoi.
Puis pourquoi tu dis que les télécommunications, c'est souvent là que ça fait mal? Parce que les gens sont plus négligents puis ça a un impact plus direct ou quoi?
Non, parce que, mettons que, puis je veux pas pointer de compagnie, là, mais mettons que la compagnie, elle se fourre dans ta facture. Ce qui arrive jamais. Ouais.
Non, jamais.
Non.
Puis toi, tu dis, hey, vous êtes planté solide, moi, je paye pas ça tant que c'est pas réglé. Ben, même si c'est eux qui ont fait l'erreur, mettons que ta facture était à payer au 1er avril, puis toi, tu dis, je vais attendre qu'ils corrigent l'erreur pour la payer.
Ça va jouer contre toi dans ton dossier.
C'est une facture en retard.
OK.
Puis que ce soit 20$, 100$, 200$, un jour de retard, que ce soit, ça dépend quel compte. Puis c'est pas tous les comptes qui ont le même impact. Là. Une carte de crédit de 12 000$, puis 12 piastres chez Vidéotron, c'est pas la même affaire.
Tu peux-tu récupérer ta cote avec le temps si tu t'es planté?
Avec le temps, oui. Avec le temps,
je
oui.
pense à tous les mois qui t'en mettent à jour.
Entre 300 et 900 points, ça, c'est le score. Moi, je sais que, mettons, sur 100 à 60 % normalement, c'est la note de passage. Ouais. Entre 300 et 900, il est où le bon score? À partir de quel score, c'est poche? Là?
300, c'est le pire. Fait que,
oui, bien évidemment. Ouais.
À partir de 660, là, on considère que c'est un score qui est bon.
Ah, okay.
Rendu là, c'est là où le système est un peu imprévisible, à la limite stupide. Là. C'est que c'est pas tous les prêteurs qui le regardent de la même manière. Il y en a un pour qui 660, c'était cœurant, puis il signe fort en bas de la feuille. Mm-hmm. Il y en a un pour qui 660, c'est pas assez bon. Ça dépend toujours de ce pourquoi tu vas emprunter.
Puis le taux d'intérêt qu'ils veulent te donner aussi, j'imagine.
Ben, le taux d'intérêt va influencer là-dessus. Puis ça, on le voit souvent, là, mettons pour les assurances. C'est pourquoi ils veulent voir ton dossier de crédit. C'est que si tu as une cote de 880, ben, tu vas avoir un bien meilleur prix que la personne qui a un score de 500. Parce que l'assureur dit, hey, les prélèvements que je fais par mois, là, je sais qu'ils vont passer. Mm-hmm. Alors que l'autre, pas sûr.
Le système est mieux que ce qui était, mettons, en 1841, mais il y a encore des trous dedans.
Oui, c'est rempli de trous. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent pourquoi c'est encore ce système-là qui régit. Essentiellement, c'est deux grosses entreprises. C'est Equifax et TransUnion. Pour vous donner une idée, là, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Là, Equifax, ça vaut 33 milliards en date d'hier. TransUnion, ça vaut 16 milliards.
Des petites compagnies.
Oui. C'est des grosses machines, mais qui dit grosses machines dit... une flexibilité, somme toute, moyenne.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a beaucoup de dossiers de crédit dans lesquels il y a des erreurs. Puis ça, eux autres disent c'est 5 % Il y en a qui disent c'est 30 % Il y en a qui vont à dire que c'est jusqu'à 70 % des dossiers de crédit dans lesquels il y a des erreurs. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un à un moment donné à qui t'a donné ton as, qui s'est trompé dans un digit. Fait que ça s'est pas allé dans le bon compte. Quelqu'un qui avait le même nom que toi, qui est né à la même date, que t'as son crédit dans ton score à toi. Tu sais, il y a 30 % à peu près, là, ça c'est comme le chiffre le plus réparti, là, le plus répandu, là, le dossier dans lequel il y a des erreurs. Fait que ça veut dire que si tu ne le checkes pas, puis tu arrives à je veux une hypothèque ou je veux un char, ben, même s'il y a une erreur dans ton dossier de crédit qui n'est pas la tienne puis que tu n'as pas corrigé, ben, tu l'as pas.
Tu la traînes.
À un certain moment donné, on nous disait que quand tu consultais ton dossier de crédit, plus tu multipliais les consultations, plus ça affectait ta cote. C'est encore vrai, ça?
Non, c'est... Puis ça, y a, sur le site de Equifax, puis TransUnion, puis un paquet d'autres places, il y a une espèce... Puis on peut y arriver, là, les espèces de mythes et réalités de la cote de crédit. Là. Ça, souvent, les gens, ils disent comme, « OK, ben là, je sais pas si j'ai des erreurs dans mon dossier, mais je veux pas aller voir parce que je veux pas affecter mon dossier. » Tu pourrais aller voir ta cote de crédit 72 fois dans la journée, ça te tente. Là.
Ou pas y aller pantoute.
Ça n'a pas d'incidence sur ton score.
Okay.
Rendu là, si tu y vas pas et il y a des erreurs, ça va avoir une incidence sur ton score. Là. Mais le fait de juste aller la consulter, ça ne l'impacte pas, que ce soit sur Equifax, sur TransUnion.
Vu qu'on est là-dedans, fais donc le tour de tout ce qui peut être mythe versus réalité par rapport à la cote de crédit.
On pense des fois que tout le monde a accès à notre dossier de crédit parce que c'est public. Il
n'y
a personne, aucun emprunteur, aucune compagnie qui peut avoir accès à ton dossier de crédit sans avoir expressément obtenu ton autorisation.
Okay.
Rendu là, les crédits de consentement de 200 pages que tout le monde coche oui.
Oui, c'est là-dedans souvent.
Mm-hmm. Peut-être que tu l'as donné là, ton autorisation. Là, uh-huh. Mais techniquement, ils n'ont pas le droit d'aller voir ton dossier de crédit sans ton autorisation.
Okay.
On entend souvent dire, hey, ben, gars, moi, j'ai une grosse dette de carte de crédit. Fait que juste à payer le solde minimum, puis mon dossier de crédit va rester even. T'sais, il ne va pas être modifié. Ça, c'est la meilleure manière de scraper son crédit.
Ben voyons donc, toi, pourquoi?
Il n'y a rien de mieux que tu peux faire pour scraper ton crédit. Parce que le paiement minimum, là, c'est une notion de la banque. Là. C'est elle qui a inventé ça, c'est elle qui a calculé ça dans son risque.
Mais pourtant, souvent, c'est l'impression que tu as. Moi, je paye ce qui est dû, donc je suis un bon payeur.
Ben, tu ne payes pas ce qui est dû.
Tu payes, ouais, le minimum de ce qui est dû.
Si tu dois 6 000 $ sur ta carte de crédit, puis le paiement minimum, c'est 112, puis tu payes 112, tu ne payes pas ce qui est dû, tu payes... ce qui te permet de ne pas faire faillite, essentiellement.
Ah, tu viens de me confondre.
Tu payes des intérêts, là.
Fait que, c'est ça. T'es le meilleur ami de la banque, là. La banque, elle tripe sur toi, là. Ils se donnent des high-fives dans le bureau chaque fois
qu'ils
sortent.
Mais ils te donnent une cote de
merde. Ben,
c'est
la
pas la banque qui te donne une cote.
La banque, elle te donne pas de cote. C'est vraiment les Equifax, TransUnion, eux autres, c'est des entreprises indépendantes, entre guillemets, là. Fait que tu peux avoir accès à ta cote sur l'application de ta banque. Mais si tu checks, ça veut dire ça vient Equifax, ça vient de TransUnion.
D'ailleurs, on a une super question sur le texto. Depuis mon renouvellement hypothécaire, ma cote entre Equifax et TransUnion n'est plus la même. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication? Ils calculent ça différemment, dans le fond, des deux côtés.
Il y a une grosse opacité dans la manière par laquelle c'est calculé. Tu sais, on sait des affaires. On sait que l'historique de paiement, c'est à peu près 35 % de la cote. On sait que tes dettes, vraiment comment tu utilises ton crédit disponible, c'est à peu près 30 %. L'ancienneté de tes dossiers, tu sais, mettons ta carte à 5, 10, 15 ans, ça c'est 15 %. Les diversités des comptes, les demandes de nouveaux crédits, ça va à peu près 10 %. À savoir comment Equifax et TransUnion déterminent c'est quoi un 300, c'est quoi un 500, c'est quoi un 900. Regarde, votre guess est aussi bon que le mien. Là. Fait que oui, c'est normal. C'est pas normal dans la mesure où ça n'a pas de sens comme système, là, mais selon la manière dont c'est fait, c'est normal que ta cote soit pas même chez TransUnion que chez Equifax. Il y en a un troisième joueur aussi qui est plus marginal, là, qui est surtout aux États-Unis. Ça se pourrait que vous ayez trois cotes différentes. Ça se pourrait qu'un emprunteur dise hey, moi, je me fie sur Equifax, l'autre dise je me fie sur TransUnion. Tu n'as pas la même cote aux deux. C'est vrai, ça fait pas grand sens, mais c'est le même, ça marche.
C'est-tu vrai qu'il faut que tu payes pour consulter ta cote de crédit dans certains. Cas?
Ben, c'était vrai il y a plusieurs années, ce l'est encore, mais c'est plus marginal. Tu sais, quand il y a eu la fuite de données de Desjardins... Là,
hey, ça a changé pour bien des gens. Là.
Première affaire qu'ils ont faite, ou dans les premières affaires qu'ils ont faites, c'est de dire, hey, on vous paye 5 ans d'Equifax, tout le monde qui ont été...
Ce qui fait qu'on reçoit un courriel. C'est genre, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. C'est quand il n'y a pas de changement à ton compte Equifax. Si, mettons, ton adresse a été utilisée dans un autre contexte, tu es capable d'aller voir carrément où ça a été utilisé, puis ils vont te suggérer de changer tes mots de passe par rapport à ça. Fait que là, vraiment, tu as accès à tous les détails. Puis là, tu es comme, oh, j'avais oublié que j'avais eu cette carte de crédit-là, elle est fermée depuis des années, mais tout est encore listé. Là.
Ouais, fait que mettons quelqu'un qui avait été, puis il y a 6 millions de Québécois qui ont été affectés par ça. Là. Fait que normalement, tout le monde a accès à Equifax. Sur ton application bancaire, des fois, ils donnent accès sans que tu aies à payer. Hmm. Puis techniquement, là, puis c'est là où, mettons, je prends les deux grands bureaux de crédit, là, sont obligés, si tu leur demandes, de t'envoyer ton dossier de crédit. Sont obligés de tout t'envoyer, là, sans frais. Par contre, ils sont pas obligés de t'envoyer ta cote. Fait que, ultimement, t'es pas plus avancé, là, faut que tu payes pour ta cote. Mais tu sais, en 2024, généralement, c'est accessible gratuitement si vous êtes un peu techno. Là.
Fait en conclusion, en n'étant pas trop sûr de comment ça se notifie et comment ça se calcule, c'est quoi les meilleurs conseils que tu as donnés au monde?
Si vous êtes un jeune ou si vous avez un kid qui a 18, 19, 20 ans puis que votre discours, c'est « Hey, ça ne tente pas de carte de crédit puis il paye tout débit », mauvais conseil parce que dans 2-3 ans, il va vouloir aller chercher un appartement. Le proprio va dire « Hey, je vais checker ton score de crédit. » Si tu n'as pas d'historique, si tu n'as jamais bâti ton crédit de quelque manière que ce soit, le propriétaire, il y a un autre gars qui va le visiter 15 minutes après que lui, il a un historique de crédit, il va le donner à lui le logement.
Donc, dans le fond, tu ouvres une mini-carte de crédit dans le fond avec un tout petit...
Ah, c'est sol, ça. Là. Achète pas toi 12 voyages dans le sud. Là, ah, mais oui. le plus jeune... c'est là où c'est un cercle vicieux. Là. On a besoin du crédit pour se bâtir un historique, mais faut pas non plus l'utiliser puis tomber dans la spirale de l'endettement à perpétuité. Là. Fait que ça, c'en est un conseil. L'autre, c'est aller voir votre cote. Puis checker si tous les comptes qui sont là sont bien à vous, checker s'il y a des erreurs. C'est chiant à faire corriger des erreurs, là, mais Equifax et TransUnion font quand même une bonne job là-dessus.
Okay.
S'il y a une erreur dans ton dossier, ils vont réajuster ta cote, mais ils ne devineront pas qu'ils ont fait une erreur. Fait que c'est vous, en tant que contribuable là, ou en tant que personne qui utilise le crédit, c'est votre job de le faire, ils ne le feront pas pour vous. Puis, pas mal ça. Soyez heureux.
Le plus possible. Hein?
Ouais, le plus possible.
Alex Leblond, planificateur financier, merci beaucoup.
Merci à vous autres.
Ça démystifie bien des affaires. Moi, je fais partie du monde qui connaissait même pas l'échelle de score entre 300 et 900. Là. Fait que tu regardes un chiffre, Alex. Tu sais pas ce qu'il veut dire. Hey, merci, Alex. Si vous avez des questions pendant ces chroniques-là, gênez-vous pas. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait aujourd'hui. 418-971-1021. Un nouveau chanteur et du nouveau Linkin Park, est-ce que ça vous parle? Il y a une rumeur présentement qui dit qu'on serait en train d'en préparer un album studio avec un nouveau chanteur. On verra bien. Des fois, ça a marché dans l'histoire du rock. Linkin Park, New Divide.